Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
C'est la fête du printemps. Les campagnes s'égaient de leurs arbres en fleurs. Même au cœur des villes, le muguet du printemps est là. Partout. En gros bouquets. En boutonnière.
La curiosité est un vilain défaut.
En boutonnière, on voit aussi ce jour-là les insignes syndicaux. Le 1er mai est la fête des travailleurs, anniversaire de lutte et de victoire.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dimanche, il y aura des rassemblements dans toute la France et des bras de muguet en vente à chaque coin de rue. Dimanche, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, nous allons célébrer le travail. Mais pourquoi ce jour-là? Pourquoi le 1er mai? Et pourquoi avec du muguet? Pour le savoir, on va remonter le temps grâce à notre consultant en histoire, Pierre Baron. Pierre, cette fête du travail, alors elle remonte où et quand surtout?
Premier exemple qu'on ait, c'est en France et c'est sous la Révolution française. On a un député, Fabre d'Églantine, qui est proche de Danton, donc des modérés, qui va instaurer le 1er cette célébration dans le calendrier révolutionnaire. Ils avaient besoin d'un certain nombre de jours pour tomber sur 365 par an. D'accord? Donc à partir de 1793, eh bien, elle tombe le troisième jour des sans-culottides. Bon, pour vous faire court, c'est le 19 septembre. Ça, ah, vous allez plus vite.
Ça y est, on se repère.
Après, on a Saint-Just, qui est un autre député, beaucoup plus radical. Saint-Just, lui, il est proche de Robespierre. Il va perpétuer cela, mais lui, il va le décaler dans le calendrier révolutionnaire. Il va le mettre au premier jour de pluviose, qui, comme chacun sait, tombe le 20 janvier. Donc voilà, c'était déjà un jour férié.
On est un peu en pluviose, là, en ce moment, nous.
Oui, non, c'est pluviose, Paris, hein. mais fin avril, voyons.
Voilà, c'est ça, oui.
Donc voilà, et ça va quand même durer quelques années, et c'était pas, Thomas, c'était pas la seule fête des révolutionnaires.
Parce qu'on célèbre une idée ou une valeur, et il y en avait d'autres qu'on célébrait, c'est ça ?
Une espèce de grande instruction civique, on va dire ça, une morale civique. Vous avez la justice, vous aviez une journée des récompenses. J'imagine les citoyens les plus vertueux et les plus méritants recevaient une récompense, je sais pas laquelle. Il y avait donc la vertu, il y avait la justice, il y avait le travail, voilà. C'était des journées instituées.
Alors comment on est passé, Pierre Baron, à notre 1er mai moderne ?
Ah, le 1er mai moderne, celui qu'on célébrera dimanche et qu'on célèbre déjà depuis un moment, lui vient d'une grande revendication ouvrière, en fait. L'affaire, elle a commencé à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, on est en plein début de la révolution industrielle. Les syndicats ouvriers réclament tous, mais alors c'est unanime sur toute la planète, dès que l'industrie commence à arriver, une chose très simple, c'est la journée de 8 heures de travail. Pourquoi 8 heures? Parce que les ouvriers, les ouvrières, à l'époque, et même les enfants, pour vous dire, travaillaient 10 heures, quand c'est pas 12, voire 14 heures, et je précise qu'ils travaillaient 6 jours par semaine, ce qui vous faisait allègrement des journées de 60, 62, etc.
On imagine l'épuisement.
Exactement. On peut avoir une idée qui est un peu amusante, qui est un peu satirique, mais qui est quand même très émouvante, c'est celle des temps modernes de Chaplin, où on voit cet ouvrier qui travaille dans une production à la chaîne. Et bien sûr, au-delà du rire de Chaplin, il y a cette satire de ce travail industrialisé qui déshumanise complètement les ouvriers.
La révolution industrielle, elle commence plutôt en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est là que la question de la durée du travail se pose en premier,
Pierre? Ça aurait pu, Thomas. Eh bien non, en fait non. Elle arrive de très loin, elle arrive des antipodes. Cette première avancée, elle vient d'Australie. C'est le premier pays à avoir institué, mais alors très tôt, les 8 heures de travail, en 1856, c'est beaucoup plus tôt que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Les ouvriers ont décidé que ce jour-là, ils allaient faire une grève, ils allaient arrêter le travail. Alors c'était très simple.
Pour obtenir la journée de 8 heures.
Pas seulement,
pas
oui.
Pas seulement.
Oui, oui, d'abord pour manifester, pour l'obtention de cette journée, mais aussi, je dirais pas forcément, c'était festif. C'était aussi pour discuter, c'était aussi pour pique-niquer. Et cette journée, au départ, elle ne devait durer qu'une seule fois. 1856. Elle a eu, d'ailleurs c'était pas le 1er mai, c'était le 21 avril à ce moment-là. Elle a eu un tel succès qu'elle a été reportée d'année en année. Et les premiers à en avoir bénéficié en Australie, ce sont les maçons. Les premiers travailleurs manuels dans le monde, bien avant le reste des continents industrialisés, qui ont pu bénéficier de ces 8 heures de travail quotidien.
Alors cette fête, le succès de cette fête ouvrière en Australie va donner évidemment des idées sur les autres continents. L'idée va se répandre évidemment, mais il faut pour cela des syndicats puissants. Ça va être le cas aux États-Unis, Pierre Baron ?
Ah oui, il y a un développement énorme des syndicats aux États-Unis dans les années qui précèdent juste avant le rapport de force pour l'obtention de ces 8 heures. Par exemple, en 1863, on a 79 syndicats aux États-Unis.
Ça va monter assez vite, ouais, c'est ça ?
On est à 207 syndicats. Ouais. On est à 300 syndicats en 1865.
Donc en deux ans, on est passé de 77
à 300.
300, d'accord.
On est compte ? Évidemment, ça s'accompagne de mouvements sociaux très durs. Parce que plus les syndicats se multiplient, plus ils ont d'adhérents. En face, on a une répression de plus en plus dure.
Elles sont réprimées comment ? C'est
oh là,
par la police ?
Ça rigole pas vraiment. Ouais. Oui, la troupe. Et puis, c'est très expéditif. En 1874, on a une grève des mineurs. Ça se solde quand même par la pendaison de 10 de leurs leaders. Ni plus ni moins. 10 syndicalistes pendus. En 1877, on a une grève des travailleurs des chemins de fer. Et ça, c'est encore plus spectaculaire. Ça va se terminer dans le Missouri, à Saint-Louis, par le blocage de toute la ville pendant une semaine. Personne ne pourra rentrer ni sortir de cette grande ville qui est Saint-Louis parce qu'elle sera bloquée par les grévistes. Mmh. Donc, on peut dire que partout dans le pays, aux États-Unis, l'action, elle s'organise, les grèves se succèdent. Et effectivement, la répression se fait de plus en plus dure.
Franchement, quand on voit le niveau de répression, on se demande comment les syndicats américains vont s'organiser pour remporter ce bras de fer avec leur patron.
En fait, au départ, ils ne voulaient pas de la violence, les syndicats américains. Mmh. Ce qu'ils voulaient, c'était une espèce d'action concertée sur le plan national.
Ils voulaient des droits ?
Oui, ils voulaient plutôt passer par la voie légale. Certes, ils étaient lucides, ils ne pensaient pas qu'on allait leur accorder facilement, mais pour eux, ça passait par une revendication légale.
Et c'est à cette époque, aux États-Unis, que le 1er mai devient la date de ces revendications.
Oui, c'est à ce moment-là. Et pour vous donner la difficulté de la trajectoire, la décision, elle est prise au 4e congrès de l'AFL. L'AFL, c'est un regroupement de tous les syndicats américains. Et on est en 1884, d'accord ? Et cette espèce de confédération syndicale se donne 2 ans pour obtenir la journée de 8 heures, le 1er mai.
Mais pourquoi le 1er mai ? C'est une date symbolique pour l'économie américaine. Qu'est-ce qui se passe le 1er mai ?
C'est une date très importante dans la vie économique américaine, le 1er mai. C'est ce qu'on appelle là-bas le Moving Day. Qu'est-ce que c'est ? Ce jour-là, d'abord, c'est la comptabilité des entreprises s'arrête. La nouvelle année commence le 1er mai. D'accord ?
D'accord.
Ça veut dire que les contrats de travail, ils changent aussi le 1er mai. Ça veut dire, conséquence de ça aussi, ça veut dire que les familles, c'est le jour où les contrats de location des maisons, des appartements sont renouvelés. Ça veut donc dire, d'où le terme de Moving Day, parce qu'il y a énormément de déménagements pour les salariés qui ne sont pas reconduits dans leur travail. Donc c'est très symbolique pour les syndicats. C'est à la fois comptable et à la fois social, ce 1er mai. Voilà pourquoi ils se disent, si on l'obtient, il faudra que ce soit le jour qui compte tant dans l'économie américaine.
C'est un jour qui est, si je vous écoute bien, synonyme de précarité d'une certaine façon dans l'esprit des ouvriers ou des salariés américains.
Bien sûr qu'il y a d'accord. ça, puisqu'encore une fois, tous les contrats sont remis à jour au 1er mai, renouvelés ou non.
Alors, on est à la fin du 19e siècle et la légende du 1er mai, on l'a déjà compris avec ce que vous venez de nous raconter, Pierre Baron, on peut prendre son temps. Ces journées, elles sont marquées par la violence. On va vous racontez dans le détail une fête des travailleurs qui s'est terminée dans le sang à Chicago. C'est tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
On parle du 1er mai et des revendications des travailleurs.
Le 1er mai, c'est dimanche, un jour synonyme de fête, de jour férié et de repos en famille. Mais savez-vous d'où vient cette tradition ? C'est notre consultant en histoire, Pierre Baron, qui nous raconte les années de lutte qui ont été nécessaires, notamment pour obtenir cette fameuse journée de 8 heures de travail qu'on savoure et on les remercie quelque part dans l'histoire. Pierre Baron, nous sommes le 1er mai 1886 aux États-Unis, le jour J fixé par les syndicats dans tout le pays. Comment se passe la confrontation ? La mobilisation, elle est forte ?
Elle est immense dans le pays. Elle est beaucoup poussée par les syndicalistes anarchistes, donc probablement les plus virulents, mais elle est très largement suivie. Bon nombre d'ouvriers vont obtenir de façon non violente satisfaction dès 1886 et dès ce 1er mai dans leurs entreprises, dans leurs branches parfois, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder.
Donc des grèves dans toutes les villes du pays.
Des grèves massives et Chicago va s'illustrer parmi toutes les villes du pays parce que Je dirais que la grève est encore plus suivie dans Chicago. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même une ville très industrielle, même dès 1886. Et cette grève, elle va se prolonger à Chicago. Elle va se prolonger dans certaines entreprises et se durcir pendant plusieurs jours. Elle démarre le 1er. Le 3 mai, à Chicago, il y a une manifestation. Et cette manifestation, la foule se fait pressante. La troupe tire, la police tire. Il y a 3 morts. Parmi les grévistes d'une firme de matériel agricole qui s'appelle McCormick Harvester. On est le 3 mai. Le lendemain, le 4, a lieu une marche de protestation. Dans la soirée, la manifestation se disperse. Et un certain nombre de gens qui montent sur des charrettes, des brouettes pour haranguer la foule, pour leur demander de rentrer chez eux. Et en gros, il reste quoi, 200 manifestants face aux policiers, qui sont quand même venus en masse. Et là, on ne sait pas très bien qui, on ne sait pas si c'est une provocation, mais il y a un bâton de dynamite qui est lancé par des inconnus.
Vers les policiers.
Oui, qui étaient vraiment assez proches de la foule. Le résultat, si j'ose dire, c'est qu'il y a un mort dans les rangs de la police. Il y a 7 autres policiers qui vont être tués, mais non pas par la dynamite, par les bagarres qui vont s'ensuivre avec les ouvriers.
Donc on imagine la scène, 200 ouvriers manifestants qui sont restés. Comme ça arrive d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a parfois ceux qui veulent en découdre, qui restent à la fin d'une manifestation. La troupe massée en face, et c'est quoi? C'est une bagarre rangée qui
Oui, après l'explosion, il y a eu un mouvement, j'allais dire, de corps à corps entre la police et les matraques. Vous vous rendez compte, ça a dû être d'une férocité inouïe pour que 7 policiers soient tués alors qu'ils étaient tout de même, eux, armés. Il a fallu quand même qu'il y ait une violence inouïe. En revanche, qu'il faut quand même préciser, Thomas, c'est qu'on ne sait absolument pas, plus d'un siècle après, on ne sait pas combien de morts il y a eu du côté des ouvriers. Personne ne le sait.
Ça a été
y compris aux États-Unis.
Ça a été étouffé.
Ah, complètement. Ah oui. Si on va à Chicago, il n'y a aucune trace du nombre de victimes parmi la foule, parmi les grévistes, parmi les ouvriers.
Enfin, en tout cas, on imagine que l'événement a eu un retentissement mondial. Il y a eu un procès, le procès des syndicalistes arrêtés.
Oui.
Ça se passe comment ?
Sidonie, ça s'est passé au mois de novembre, donc 6 mois après. Et je dirais que ce procès, non seulement il n'a pas apaisé les consciences, mais que ça a fait qu'empirer, ça a mis de l'huile sur le feu. Pourquoi ? Parce que c'était une mascarade. C'est-à-dire qu'on avait quoi ? On n'avait absolument aucune preuve contre les syndicalistes qu'on avait arrêtés. D'accord ? Et tous, malgré l'absence totale de preuves, sont condamnés à mort. Tous, sans exception. 4 vont être pendus le 11 novembre 1887. L'un va se suicider dans sa cellule. Et 3 autres vont être condamnés à perpétuité. Et je précise encore une fois, sans qu'il y ait le début du commencement de l'esquisse de l'ébauche d'une preuve.
Oui, c'est-à-dire il y a eu 7 morts parmi les policiers, donc il faut des coupables. On en a arrêté 7 et on les a jugés et condamnés
et ça,
dans une mascarade de justice.
Oui, ce qui provoque au niveau international, dans toutes les capitales, des manifestations spontanées de gens qui sont indignés par ce qui vient de se passer dans ce procès qui, encore une fois, en lui-même est aussi une provocation vis-à-vis des gens qui ont été tués, que ce soit les policiers ou les syndicalistes.
Pierre Baron, qu'est-ce qu'on peut lire sur la tombe d'un des condamnés à mort, Augustin Spies ?
Ah, une très belle phrase qu'on peut lire aujourd'hui encore, hein, au cimetière de Waldheim à Chicago, près du centre. Et il l'a dit, il a écrit, du moins sur sa stèle, et a été écrit, pardon, « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Je trouve ça magnifique. Mais il y en a un qui a été encore plus dur, je trouve, plus assassin. Il faut dire que lui, il est coutumier du fait. Hein. C'est le dramaturge Georges Bernard Shaw, connu pour, lui aussi pour un esprit féroce, qui avait écrit justement au lendemain du procès « Si le monde doit absolument prendre 8 de ses habitants, il serait bon qu'il s'agisse plutôt des 8 juges de la Cour suprême de l'Illinois. » C'est quand même d'une dureté.
Et il proposait de pendre les juges de ce procès. Alors ces voix, parce qu'on lisait cette épitaphe « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui », ces voix, effectivement, elles vont se faire entendre un peu partout dans le monde ouvrier, notamment en Europe. Pour comprendre comment se fait le relais entre ce qui s'est passé à Chicago et la mobilisation ouvrière en Europe.
3 ans après les événements de Chicago, la deuxième internationale socialiste se réunit à Paris en congrès. On est pendant l'exposition universelle. On commémore le centenaire de la Révolution française. Et on est au pied quasiment de la toute nouvelle Tour Eiffel. D'accord ? Ça, c'est le cas. Là.
Ouais.
Les congressistes, eux, pareil qu'aux États-Unis, se donnent l'objectif de la journée de 8 heures et ils l'affirment solennellement. D'accord ? À l'été 1889, il décide que sera, je cite, « organisée une grande manifestation à date fixe, le 1er mai ». Et là, en fait, les Européens, les syndicats européens et l'international socialiste, elles s'alignent sur la date choisie initialement par les syndicats américains. Mmh. D'accord ? Donc, dès l'année suivante, le 1er mai 1890, dans toute l'Europe, on a des ouvriers qui font grève et qui défilent pour obtenir ces 8 heures. Et ils ont un signe distinctif très fort.
Qui n'est pas encore le muguet ?
Non, on est loin encore du muguet.
Alors c'est quoi ?
Ils portent un triangle rouge à la boutonnière. Ah, pourquoi un triangle ?
Oui,
parce qu'un triangle, devrais-je le rappeler, ça a trois côtés. Et donc,
les trois,
les trois côtés...
Petit cours de géométrie, mais
fin de la leçon de géométrie, circulez.
Je vous connaissais pas cette voix, Pierre Baron. Elle vous va très bien.
Ah, oui, merci, Denis. Et donc, ces trois côtés, c'est les trois huit. Ça veut dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Voilà ce que ça signifie au départ, et c'est leur signe de ralliement.
Ces premières grandes manifestations, ça se passe comment ?
Ou très vite, dès le départ même, hein, dans le début des années 90, ça se passe la plupart du temps avec beaucoup de violence et beaucoup de répression. Quelles que soient les capitales européennes, ça dégénère très vite. On est vraiment dans un non-dialogue absolu. Et donc le monde ouvrier a l'impression qu'il n'a pas de relais, à la fois syndical puissant, à la fois parlementaire, parce qu'encore une fois, une partie de la gauche européenne y est favorable, mais ne pèse pas lourd dans les décisions légales. Et donc tout ça, Thomas, ça ne fait que, si j'ose dire, attiser le désespoir. Et donc ça ne fait que empirer d'un côté comme de l'autre, parce que de l'autre côté, du côté des propriétaires, on a de plus en plus peur de ces mouvements ouvriers. Parce que comme ils sont de plus en plus violents, de plus en plus acharnés, de plus en plus déterminés, on se dit que forcément, ça va mal finir. Et effectivement, c'est ce qui va se produire.
Alors la France aussi connaîtra un 1er mai tragique. Il a lieu en 1891 à Fourmies, dans le Nord. On vous le raconte dans un instant, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
Dans la majorité des pays du monde, le 1er mai est un jour où personne ne travaille. Pour le comprendre, il faut remonter au 1er mai 1886 aux États-Unis.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà plusieurs années que les syndicats américains se battent pour obtenir une journée de travail de moins de 8 heures. Pour se faire entendre, ils instaurent une journée de grève générale tous les 1er mai et ce, chaque année. Le succès des mouvements aux États-Unis inspire quelques années plus tard les Européens.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
D'où vient cette tradition du 1er mai ? Vous venez d'avoir une réponse et si vous nous rejoignez, c'est ce que nous a raconté Pierre Baron tout à l'heure dans la curiosité. Depuis quand cette date est-elle devenue la fête du travail ? On découvre grâce à vous Pierre qu'elle a d'abord été marquée cette journée du 1er mai par des luttes souvent violentes pour obtenir la journée de 8 heures. C'est la mobilisation, la revendication principale des ouvriers. En France notamment, on est le 1er mai 1891, ça devrait être un jour de fête, mais ça dégénère. Comment ?
C'est la version française de ce qui s'est passé à Chicago. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes dans le nord, cette fois-ci, dans une petite ville, Fourmies. Fourmies, ça compte 16 000 habitants à cette époque-là. Et une ville très ouvrière. Et la majorité des ouvriers vivent dans des conditions d'insalubrité dramatique. Il faut savoir que dans la décennie qui a précédé, les salaires ont baissé de 10 à 15% dans la ville, dans les filatures notamment. Mais lui, le prix du pain, lui, il a augmenté de 20%. Et le prix du charbon, il a grimpé de 44%. Pendant l'hiver 1890-91, il y a 2000 personnes sur une ville de 16 000. Ça veut donc dire un habitant sur 8 qui dépend du bureau de bienfaisance pour subvenir. Il n'y arrive pas, d'accord ? Ça veut dire que vraiment, on est dans le paroxysme de la misère et de la tension à Fourmies. C'est pas la seule ville de France, mais là, toutes les conditions sont réunies. Pourtant, au départ, c'est calme. C'est-à-dire que le 1er mai à 10h, les ouvriers sont invités à porter leurs revendications à la mairie. Et au programme de ce jour, il y a des festivités l'après-midi et il y a un bal en soirée qui sont au programme.
Comment tout ça va dégénérer ?
Bah, ça va tourner en bain de sang.
Ouais.
Parce que d'une part, le préfet, comme on l'a dit tout à l'heure, craignant des débordements, a mobilisé un très important dispositif de forces de l'ordre, et pas seulement les forces de l'ordre policières, mais militaires, avec deux compagnies d'infanterie. C'est pas rien. Ça fait plusieurs centaines de militaires. À 9h, la plupart des ouvriers de la ville sont en grève. En gros, il y a une seule filature qui ne fait pas la grève. Et quasiment tout le monde est en grève dans la ville. D'abord, il y a une échauffourée avec des gendarmes à cheval et quatre manifestants sont arrêtés. En début d'après-midi, le maire de Fourny promet de relâcher à 17h les ouvriers qui avaient été arrêtés le matin. Mais il ne se passe rien. À 17h30, il n'y a rien. À 18h, il n'y a rien. À 18h15, il n'y a rien. Et là,
donc, l'exaspération monte.
Voilà, exactement, Thomas. La tension, elle monte. Parce que face à la mairie de Paris, ils sont les quatre. La mairie de Fourmies. Ces quatre-là ne sortent pas et la foule commence à s'énerver de plus en plus. Qu'est-ce qui va se passer? La foule va presser d'une certaine manière. Et la troupe, qui par parenthèse fait vite, est traînée là, le fameux fusil Lebel, qui fera des ravages pendant la guerre de 14. Il faut savoir qu'avant d'aller tirer sur l'ennemi, il a tiré sur les Français. Alors, on a été très fiers, mais il a fait un vrai carnage. Les cailloux se sont mis à voler du côté des grévistes et des manifestants. Et pour se dégager, pour se libérer, la troupe a tiré. Et elle a tiré, elle fait quand même une trentaine de blessés et elle fait 9 morts. Elle fait 9 morts avec beaucoup de femmes et des enfants. Il y a 2 choses qui ont ému et bouleversé toute la France. La première, c'est l'histoire d'un gamin de 11 ans, Émile Cornaille, qu'on retrouve avec une petite toupie dans la poche parmi les morts. Et puis, il y a une femme qui va devenir le symbole de cette journée. Elle s'appelle Marie Blondeau, c'est une jeune ouvrière de 18 ans. Et ce qui était très touchant, c'est que elle avait dans les bras, au moment où elle a été tuée, une brassée d'églantine. Et l'églantine va devenir, à ce moment-là, va prendre, si j'ose dire, la suite du triangle rouge dont on parlait tout à l'heure. Et dans les années qui vont suivre, pour l'honorer, les manifestants, pas seulement en France, hein, mais dans l'Europe, vont arborer à la boutonnière une églantine écarlate rouge vif.
Et avec ce drame de Fourmies, évidemment, le 1er mai va s'enraciner dans la tradition de lutte des ouvriers français. La célébration du 1er mai va quasiment disparaître après, en France, jusqu'en mai 68. On va vous raconter pourquoi sur RTL, à toutes les curieux.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Célèbre-t-on les travailleurs le 1er mai? Pourquoi le muguet est-elle devenue la fleur qui symbolise cette fête? C'est notre consultant Pierre Baron qui nous dit tout sur ce 1er mai dans la curiosité. À quelle époque, Pierre Baron, la journée de 8 heures pour laquelle s'est battu pendant des décennies des ouvriers dans le monde entier est devenue une réalité?
En France.
Chez nous, en France, oui.
En France, juste après la Première Guerre mondiale, en 1919, il y avait effectivement un besoin urgent et crucial de main-d'œuvre. Parce qu'il y avait énormément de morts, que les femmes aussi avaient pris l'habitude de travailler, elles occupaient des postes. Et donc l'idée de la CGT, à l'époque, c'était un syndicat très ancien, il avait été fondé en 1895, avec la partie, je dirais, des socialistes les plus progressistes, c'était de proposer déjà à l'époque le partage du temps de travail pour que justement, ça soit à la fois juste économiquement et socialement. Et donc, bah 1910, c'est après 30 ans quand même, après la tragédie de Fourmies.
Ça prend un temps fou quand même.
Alors ensuite, on va avancer un peu, brûler quelques étapes pour pouvoir raconter pourquoi le muguet est devenu aussi le symbole de cette journée. À la libération, après la Seconde Guerre mondiale, on ne parle plus de fête du travail, mais de fête des travailleurs. Pourquoi?
Parce qu'il y a 2 façons de voir ce 1er mai. Historiquement, on vient de le voir. Le 1er mai, pour la plupart des gens, je dirais progressistes, y compris aux États-Unis, c'est une fête des travailleurs. C'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. Quand, juste avant la libération, on a eu le régime de Vichy, on était tout à l'inverse. C'est-à-dire qu'on était dans le corporatisme, et bien sûr, c'était la fête du travail. Le gouvernement de la libération, en 47, revient à cette notion de fête des travailleurs pour montrer qu'on honore les salariés. Et non pas la notion du travail.
Ouais. Mais elle va disparaître, cette fête, quasiment pendant les années 50, 60. Ouais. Pourquoi?
Eh bien, pour des raisons, officiellement, pour des raisons de sécurité, parce que vont se succéder la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, donc tout au moins à Paris, attention. Ouais. Les manifestations et les cortèges vont être interdits. Il va falloir attendre 1968, année somme toute assez agité par ailleurs,
ah bon,
pour qu'une grande manifestation de la CGT soit organisée le 1er mai, deux jours avant l'occupation de la Sorbonne.
Donc c'est un des éléments déclencheurs, ce que vous êtes en train de nous dire?
Non, pas... c'est une coïncidence.
Ah d'accord.
Parce qu'à ce moment-là, le monde ouvrier n'était pas en pointe par rapport à la contestation. Mmh. Il a rejoint la contestation étudiante. Mais tout est venu tout de même des centaines d'étudiants qui étaient retranchés dans la Sorbonne. Les syndicats ouvriers ont, si j'ose dire, pris le train en marche après.
Alors, sous les pavés, la plage, et sur cette plage, des brins de muguet, c'est ça, Pierre, du 1er mai? Elle vient d'où, cette tradition?
Oh, ben, cette tradition, elle a plusieurs sources.
On était resté aux églantines.
Oui, on était...
Après le triangle.
Alors, pourquoi? Déjà, ça, il y a plusieurs raisons. Au début du siècle, en 1905-1906, il y avait une profession qui honorait le retour du printemps et ce jour de 1er mai, c'était les couturiers qui offraient à leurs petites mains, aux ouvrières, mais aussi à leurs clientes, un brin de muguet. Déjà, il y avait cette petite tradition-là. En Ile-de-France, de façon presque séculaire, le muguet, on appelle ça le lys de la vallée, c'est son autre nom. Eh bien, le lys de la vallée, ça symbolisait le printemps. Donc, par un certain nombre de... on a voulu remettre le muguet au goût du jour pour montrer, pas pour se détacher, parce qu'attention, en 1936, le Front Populaire, on défilait tout de même avec, non pas le muguet, mais on était encore à l'églantine, avec un petit liseré rouge autour. Ouais. C'est plutôt au début du siècle, 1905, 1906, 1907, que le muguet commence à détrôner ce qu'était l'églantine avant, le symbole du 1er mai. Il y a plusieurs autres raisons. Il y en a une qui est assez jolie, je trouve, qui est galante, on va dire ça comme ça. C'est l'histoire d'un roi de France, en 1561, Charles IX, qui décide... On l'avait accueilli en lui remettant un brin de muguet. Et il avait trouvé ça charmant. Et donc, il avait décidé que les années suivantes, tous les 1er mai, il remettrait aux dames de la cour un brin de muguet. C'est beau.
Oui.
Enfin, ça l'a pas empêché de faire le massacre de la Saint-Barthélemy. Comme quoi, dites avec les fleurs, des fois, c'est limité. Mais, enfin, que sur le moment, c'était joli.
Mais c'était un symbole de galanterie, on
voilà,
va dire ça.
Voilà, c'était d'accord. Un symbole de galanterie, voilà. Oui.
Alors ensuite, il y a eu... Mais ça a été aussi une fleur associée aux rencontres amoureuses. Pourquoi?
Oui, parce que traditionnellement, le mois de mai, c'est ce qu'on appelle le mois des accordailles. C'est-à-dire le mois des fiançailles. On ne se marie pas en mai, puisque bon, l'église, c'était à cause de Marie.
Donc comment ça y penser?
Voilà, il y a censé.
Ah oui.
Mais pour se marier, il faut se fiancer, voyez-vous?
Oui.
Donc, il faut commencer à préparer les choses. Donc au mois de mai, il y a des fiançailles. Et pendant ces fiançailles, eh ben, figurez-vous, le muguet, c'était la fleur amoureuse. C'était celle qu'on offrait à sa promise, à la fiancée. Il y avait d'ailleurs un bal, mais ça date, mais vraiment dans les provinces françaises, c'est très ancré, où c'était le seul bal de l'année où les parents n'étaient pas invités. Et que les jeunes gens et les jeunes filles. Vous imaginez?
Chouette. Vous imaginez la joie.
C'est pas les discothèques. C'est quand même, à l'époque, c'était quand même extraordinaire qu'il n'y ait pas de chaperon, ouais, alors qu'il y avait les jeunes gens et les jeunes filles qui dansaient. Si vous voulez.
Beaucoup d'enfants ont dû être conçus autour du mois de mai. Voire
oui, plus 9 mois.
Mai.
Sur, oui, c'est ça. Pas mal.
Et ailleurs dans le monde, Pierre Baron, est-ce qu'on l'aime ce 1er mai?
Oh oui, c'est pratiquement le jour chômé le plus répandu dans le monde, quasiment dans toute l'Europe. Je crois qu'il n'y a que les Pays-Bas et certains cantons en Suisse qui ne célèbrent pas le 1er mai.
Bon.
Je sais, d'accord, mais vous allez me dire que en Suisse, c'est l'argent qui travaille dans les coffres, mais c'est pas...
Ça,
alors, c'est méchant.
C'est vous qui l'avez dit.
Bon, je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit.
Voilà.
Ce sont des travailleurs comme les autres.
Oui, les liasses aussi. Et donc, dans le reste du monde, si vous voulez... Le 1er mai, il est fêté partout. Il est fêté en Russie, il est fêté au Japon. C'était les anciennes moissons impériales qui sont devenues.
Ouais.
On fêtait les moissons de l'empereur. Ils sont devenues le 1er mai, fête du travail.
Aux États-Unis, forcément, puisque c'est parti.
Dans toute l'Amérique latine, Thomas, toute l'Amérique latine, sans exception. Mmh. En Afrique du Sud, il n'y a pas vraiment d'exception.
Et au Québec, en préparant l'émission, vous nous avez dit que le 1er mai était devenu synonyme de bonne nouvelle, c'est-à-dire...
Oui, parce que... Traditionnellement au Québec, lorsqu'il y a l'augmentation du salaire minimum, on l'annonce le 1er mai. C'est quand même une bonne nouvelle. On l'annonce lors de la fête du travail.
Voilà. Ben oui, c'est plutôt une très bonne idée.
Comment on est passé de la violence à une fleur, c'est plutôt agréable.
C'est plutôt agréable. Et donc, si je comprends bien, si on veut rendre hommage à cette jeune travailleuse du Nord qui a été tuée à Fourmies, eh ben, il faut mettre un brin d'églantine.
Ah oui, on
plutôt
peut.
Plutôt qu'un brin de muguet.
Bien sûr, puis c'est très beau l'églantine en plus.
Et avec un petit ruban rouge autour.
Voilà.
On pensera à cette jeune fille qui est morte sous les balles des soldats à Fourmies dans le Nord. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pierre Baron. C'est passionnant. Comme d'habitude, à chaque fois que vous venez.
Vous écoutez RTL.